Chapitre 19. Le mois de juin arriva. Les arbres s'étaient tous couverts à leur façon de feuilles. Les chênes laissaient voir leurs branches. Ils ressemblaient à des hommes en pleine force, mais chauves. Les marronniers étaient impénétrables, comme des maisons où on vient de s'installer et où la maladie et la pauvreté n'entreront pas avant des années. Le chalet était ensoleillé du matin au soir. Chaque fois que Digoin revenait d'une promenade, et qu'il le revoyait, avec ses hauts de meubles dans l'embrasure des fenêtres, son écurie transformée en buanderie, ses fauteuils dans le jardin, ses ouvriers posant des stores, l'émotion lui entr'ouvrait la bouche. Était-il vraiment chez lui dans ce chalet, ou bien celui-ci formait-il bloc avec les constructions voisines? Il poussait la grille en la soulevant légèrement à cause du gravier. Il entrait, puis il la refermait. « Bonjour, monsieur Digoin !» lui disait quelqu'un. Il était chez lui. La grille le séparait de la rue, des jardins contigus, et pourtant son inquiétude grandissait encore. L'âge lui avait appris que la propriété n'existe que si le propriétaire peut la garder. Aucun asile n'est inviolable. Sa profession d'agent de location l'avait jadis conduit devant une maison où deux vieilles filles barricadées se laissaient mourir de faim. Les gendarmes avaient pu forcer la porte et les conduire à l'hôpital. C'est souvent à cette maison qu'il pensait en voyant la sienne. Un jour, Digoin sortit plus tôt que d'habitude, non parce que le temps était plus beau, mais à cause d'une sensation d'insécurité. Chez lui, des ennuis imprévus pouvaient surgir. Dehors, il était à l'abri. Au lieu de se rendre en ville, il se dirigea vers la forêt. Le soleil était lui-même bleu, d'un bleu rayonnant de métal sur le bleu pâle du ciel. L'herbe, les fleurs, les feuilles, les toits étaient couverts de rosée. Les oiseaux chantaient. Digoin n'était pas homme à admirer la nature. Il songeait à lui-même. Il songeait à la petite maison où il rêvait de vivre avec Simone, une petite maison dans une ville du Midi, par exemple, dont personne ne connaîtrait le nom. En longeant le champ de course, il revit les 5 années qu'il venait de passer à Fontbonne, la lente transformation d'une vie solitaire en une vie bourgeoise. Maurice était venu, Juliette avait écrit. Elle allait écrire de nouveau. Même à Druny, on devait parler de lui, être au courant de son mariage. Comme il avait rencontré Maurice, il rencontrerait un soir un camarade d'enfance. Vers 3 heures, il faisait d'habitude la promenade qu'il avait faite ce jour-là le matin. Il descendit l'avenue Henri-Martin. Elle était un lieu de promenade et les femmes des commerçants y menaient leurs enfants. À travers les grilles, on apercevait les habitants des grandes propriétés qui prenaient le café à l'ombre. Une mince fumée bleuâtre s'élevait d'une maison de garde. Il faisait chaud. Quelques nuages blancs traversaient le ciel. De pauvres gens revenaient de la forêt avec des fagots. D'autres y allaient, un sac discrètement roulé sous le bras. Lorsqu'il se fut promené pendant 2 heures, Digoin rentra chez lui. Il était décidé, à présent, à demander à sa femme de quitter Fontbonne. Il lui dirait la vérité. Il lui dirait que depuis que Maurice était venu, sa tranquillité s'était évanouie, qu'il craignait quelque chose. Il serait naturellement incapable de préciser quoi. Mais, puisque c'était ainsi, il supplierait Simone de partir. Il la chercha dans la maison. Elle n'était pas là. Cela valait mieux. Il lui parlerait après le dîner, à cet instant où, les domestiques partis, il éprouvait l'étrange joie, non de rester seul avec Simone, mais de bénéficier d'une faveur particulière. Une soirée magnifique succéda à cette journée magnifique. Les étoiles étaient si brillantes qu'on les apercevait de l'intérieur du chalet. Les fenêtres étaient ouvertes. Mais pourquoi les bruits de vaisselle qui venaient jusqu'à lui le faisaient-ils penser à la cuisinière? Elle s'était attardée, elle était restée trop longtemps à table, elle avait plaisanté avec la femme de chambre. Pourquoi de telles réflexions lui venaient-elles à l'esprit? Décidément, il redevenait le petit bourgeois de Druny, celui dont l'attention est toujours éveillée par le travail des autres. Il voulait parler. Il ne le pouvait pas. Un homme comme lui, dont la plus grande partie de l'existence s'était déroulée parmi des petites gens de province, n'était pas préoccupé que des réalités vulgaires. Il avait aussi le respect de la solidarité. Il avait grandi dans un milieu simple où la lutte pour le pain quotidien est dure, où la chance ne favorise personne et où, surtout, celui qui peut aider ses semblables et ne le fait pas est considéré comme un monstre. Maurice était malgré tout son fils. Il regarda Simone. Elle avait allumé une cigarette. Elle ne la fumait pas par habitude, elle la fumait avec une jouissance profonde. Digoin se leva, ferma les fenêtres. Il avait le sentiment d'être un homme perdu par l'inaction et la vanité. Il s'abandonnait à une vie pour laquelle il n'avait pas été fait. Mais s'il n'avait pas épousé Madame de Kersauson, si aujourd'hui, au lieu de faire envie, il faisait pitié, si seul et malheureux, il avait cherché un peu d'affection auprès de son fils, celui-ci ne l'eût même pas reconnu. À cet instant, un souffle de bienveillance dispersa ses réflexions. Il acceptait les joies du sacrifice. Mais valait-elle celle de la paix de l'âme ? « J'ai à te parler, » annonça-t-il à Simone. « Ne crois-tu pas que nous serions plus heureux, seuls, loin de tous ces gens qui, au fond, nous détestent, car ils sentent que nous ne leur ressemblons pas ? Comme la vie serait agréable dans une ville où personne ne pourrait nous retrouver ! Qu'est-ce qui nous empêche, après tout, de quitter Fontbonne ?» Digoin avait cru qu'il lui faudrait se défendre d'être un mauvais père. Il n'avait pas prononcé le nom de Maurice, mais il avait préparé ce qu'il répondrait si sa femme lui reprochait d'abandonner son fils d'un cœur si léger. Maurice était un homme. Il était trop tard pour prendre de l'influence sur lui. Oh non, il n'empêchait pas Simone de porter intérêt à ce garçon. Il n'était pas jaloux. Il savait que ce n'était que pour lui être agréable, à lui, Charles, qu'elle avait parlé de Maurice à M. Veil. Mais il n'en fut rien. Simone écouta son mari sans grande attention. Il ne lui venait pas plus à l'esprit de s'attrister que Charles fût plein de mauvaises pensées qu'à celui d'un homme d'affaires qu'on veuille le tromper. C'était ainsi. Une femme ne demande plus à l'homme, dont elle est sûre d'être aimée, de lui plaire par de belles qualités, puisqu'elle a l'essentiel. « Nous sommes très bien ici, » répondit-elle. Dans une union aussi parfaite que celle de M. et Mme Digoin, une décision ne pouvait avoir été prise par l'un à l'insu de l'autre. Elle devait être la conséquence d'une résolution commune. Le contraire eût signifié que l'entente était rompue. Comme ce n'était pas le cas, Simone ne songea même pas qu'une réponse aussi sèche pût causer à Charles quelque contrariété. Elle ne s'était pas trompée. Il répondit « Tu as raison ».